20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est l'une de ses plus importantes prises de rôle. Léa Desandré chante Médée, le rôle titre de l'opéra de Charpentier, en ce moment et jusqu'au 11 mai à l'Opéra Garnier. Elle nous fera partager justement ce soir ses émotions. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous offrira une petite escapade musicale à Francfort. Avant cela, jetons un coup d'œil sur les autres événements de l'actualité musicale. La nouvelle production de l'Opéra de Bordeaux et la seconde, labellisée Zéro Achat. Elle a en effet été conçue à partir d'éléments 100% recyclés dans une démarche circulaire et raisonnée, mettant en valeur le stock des productions anciennes tout en donnant naissance à une scénographie bien entendu inédite. À l'affiche, La Bohème de Puccini, dans une mise en scène signée Emmanuel Basté, dirigée par Roberto González Mondras, avec la soprano arménienne Juliana Grigorian dans le rôle de Mimi, le ténor mexicain Arturo Chacón Cruz en Rodolfo, ainsi que Francesca Piavitale en Musetta et Thomas Dolé dans le rôle de Marcello, une production de La Bohème de Puccini, donc à découvrir du 18 au 28 avril au Grand Théâtre de Bordeaux. On reste dans le répertoire lyrique avec Don Giovanni de Mozart à l'affiche à l'Opéra de Rouen, mais en version de concert, sous la direction du chef de la maison, à savoir Ben Glasberg, avec Hugh Montagrandal en Don Giovanni, Peter Kellner en Leporello ou encore Yaritza Velitz en Donna Anna. Trois représentations de ce Don Giovanni les 16, 18 et 20 avril sous les micros de Radio Classique pour une diffusion prévue sur notre antenne le 18 mai. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique. À présent, le pianiste Yundi, révélé il y a un peu plus de 20 ans au concours Chopin de Varsovie, se lance dans un cycle Mozart, et c'est à Salzbourg, dans la ville natale du compositeur, qu'il a enregistré en novembre dernier le premier volet de ce cycle, un album qui vient de paraître chez Warner, incluant les sonates numéro 8, 11 et 14, ainsi que la fantaisie en ut mineur, des pages qu'il jouera le 27 avril à l'occasion de son récital parisien, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées.
Thank you.
Le final de la sonate numéro 8 de Mozart par Yundi, un extrait de cet album Mozart tout juste sorti chez Warner. Yundi sera donc en récital le 27 avril au Théâtre des Champs-Élysées, un récital entièrement dédié à Mozart.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est dans sa loge à l'Opéra de Paris, à l'issue d'une répétition, que je suis allée rencontrer il y a quelques jours Léa Desandré. Elle fait ses débuts en ce moment en Médée dans l'Opéra de Charpentier. À l'affiche jusqu'au 11 mai au Palais Garnier, dans une mise en scène de David Madvicar et sous la direction de William Christie à la tête de César Florissant. Ce rôle, le rôle de Médée, qui marque un tournant très important dans sa carrière, est l'un des quatre qui entre à son répertoire cette saison après Ariodante de Handel, puis Idamante dans Idoménée de Mozart, deux rôles qu'elle a tenus à Genève, et avant Timna dans Samson de Rameau, qu'elle chantera cet été à Aix. Quatre prises de rôle, ce qui implique un grand engagement de sa part, mais s'inscrit en même temps dans un parcours tout à fait cohérent sur le plan artistique, comme elle me l'a confié.
C'est beaucoup, oui, quatre prises de rôle, c'est pas mal de travail, mais en fait, quand on prend Ariodante, Idamante, qui sont arrivés juste après Chérubin, c'était la transition parfaite pour aller vers Médée, parce que ce sont de jeunes rois, donc de jeunes hommes, mais qui sont avec plus de caractère, qui sont politiquement plus engagés, donc plus dramatiques. Et en fait, ça m'a amené naturellement à Médée. Et après, pour Rameau cet été, ça va dans la continuité de Charpentier aussi. Donc, quelque part, c'est quatre gros challenges, mais qui, ensemble, n'en font qu'un et cèdent les uns les autres.
Donc Médée, c'est un grand rôle de tragédienne. Médée, c'est un personnage terrible, c'est l'un des personnages peut-être les plus forts, les plus terribles, quelque part, personnage féminin de l'histoire de l'opéra.
Oui, alors plus les répétitions passent, plus j'ai de l'empathie pour Médée. Et c'est ce qu'on a cherché aussi à faire avec David Madvicar, le metteur en scène, à se dire qu'à la fin du spectacle, lorsque les gens sortiront de la salle, on aimerait qu'ils se disent « mais en fait, j'aurais pu être comme Médée ». Et c'est un personnage qui est très humain, et surtout dans le livret de Corneille, que ce soit de Pierre ou de Thomas, elle est traitée différemment des pièces de Sénèque ou de Ripide, où dans ces pièces-là, elle est traitée comme étant quasiment folle. Et chez Corneille, pendant les trois premiers actes, elle a énormément d'empathie avec les gens autour d'elle. Elle écoute, elle essaie toujours de résoudre les situations pour faire en sorte que ses enfants soient protégés, qu'elle puisse rester avec son époux et que, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Et en fait, tous les autres personnages autour, c'est eux qui la manipulent, qui sont complètement emportés par ce désir de pouvoir. Et on la comprend, quand elle arrive au quatrième et cinquième acte, on sent que la magicienne prend le dessus, et c'est un peu l'allégorie de la jalousie ou de certains sentiments humains. C'est ça qui est fascinant aussi dans la mythologie, c'est qu'on vient toucher à l'inconscient de l'être humain. Et en effet, de tous les rôles que j'ai faits, c'est un des rôles les plus passionnants, dramatiquement les plus puissants. Ça nous fait vraiment aller chercher au fond de nous-mêmes plein de choses, et j'avais un peu peur de ce processus de répétition en me disant que ça allait me brûler, parce qu'elle passe par des sentiments très forts. David me dit tout le temps, imagine que tu es un loup-garou au moment où il va muter, mais qui s'empêche de muter un soir de pleine lune. Donc c'est cette espèce de déchirement intérieur. Et en fait, plus les jours avancent, plus je me sens calme, parce qu'elle a quelque chose de très connecté à la terre. Médée, elle vient de l'île des Amazones. Donc il y a cette chose de femme puissante, connectée aux éléments. Et c'est fascinant, ouais. C'est vraiment le rôle le plus passionnant que j'ai eu la chance de chanter jusqu'à maintenant.
Comment cette Médée que vous chantez, cette Médée de Charpentier que vous chantez, Léa Desandré, ici à l'Opéra de Paris, comment musicalement évolue-t-elle? Comment est-ce que le compositeur suit son cheminement psychologique de la femme amoureuse rejetée jusqu'à la folie?
En fait, dans cet opéra, on est vraiment dans une tragédie lyrique. Donc avant tout, on est des comédiens et non pas des chanteurs. Et ça passe par le texte. Au début, il y a quelques références aux invocations des enfers. En fait, c'est le texte et le champ lexical qui évolue au fil de la pièce. Au début, elle se laisse un peu emporter par un dragon qui dort, et puis de plus en plus, le dragon se réveille. C'est plus dans la cadence des récitatifs aussi. Donc les récitatifs sont construits de manière à ce qu'on soit à la fois libre et aussi dans une structure. Et dans les récitatifs, au fil de l'œuvre, l'écriture devient plus dramatique. L'ambitus aussi, il y a des sauts d'octave qu'il n'y aurait pas eu avant. J'aime vraiment cette image du dragon qui dort ou du loup qui est prêt à se transformer. C'est ça qui chemine au fil de la pièce.
Et puis vous chantez ici avec William Christie et Les Arts Florissants. William Christie qui fait son grand retour ici à l'Opéra de Paris. Chanter Charpentier avec William Christie, c'est, j'imagine, particulièrement stimulant.
Oui, ça me met beaucoup en confiance, en fait. C'est vrai que ce rôle, je pense que je n'y serais pas allée si ça n'avait pas été avec Les Arts Flo, avec William Christie et à l'Opéra de Paris. Parce que les trois choses ensemble font que je me sens dans un lieu protégé, bienveillant, dans lequel je peux dialoguer. Et ça change tout de se savoir entouré de personnes qui veulent notre bien, qui sont là pour nous aider, nous mettre à l'aise. Même là, je vois sur le début de la production, depuis 3 semaines, j'ai des coachings quasiment tous les jours avec Benoît Artois, notre chef de chant. Et ça, c'est un grand luxe d'avoir cette personne que je connais depuis le Jardin des Voix, qui me connaît par cœur et qui m'offre un cadre bienveillant et qui est très patient avec moi parce que le rôle est énorme. Donc, il y a plein d'erreurs à corriger. Mais tous les jours, de pouvoir travailler avec lui, avec cette facilité de dialogue aussi, on se connaît tellement bien. Ça change tout et c'est pareil en fosse. Thomas Dunford sera dans la fosse. Les gens de l'orchestre, il y en a pas mal que je connais depuis 10 ans maintenant. Donc il y a cet esprit de bienveillance et ça se voit même par un regard en les regardant en fosse, un sourire. Ça donne une confiance qui est fondamentale pour une prise de rôle comme ça.
Donc vous serez en famille quelque part, vous êtes ici en famille, Léa Desandré, dans cette maison que vous connaissez à bien connaître. C'est, je crois, votre 3e production à l'Opéra de Paris. C'est vrai que vous chantez régulièrement à l'Opéra de Paris, on a pu vous entendre souvent à l'Opéra Comique, il y a le Festival d'Aix-en-Provence, où vous serez dans quelques semaines. Salzbourg, cette année c'est le Festival de Pentecôte. Ce sont un peu vos points d'ancrage, Paris, Salzbourg, Aix?
Ouais, complètement. C'est des endroits dans lesquels j'ai eu la chance de faire des rencontres qui ont pu se développer et dans lesquels on a pu dialoguer et surtout penser à l'avenir proche, mais un peu plus lointain, se poser autour d'une table et se demander quel sera le répertoire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et voilà, d'avoir ces personnes autour de moi, ça crée encore une fois de la confiance, ça donne envie de se développer. Et j'ai quand même beaucoup de chance, parce que ce soit Paris, Salzbourg ou Aix, c'est quand même des endroits hyper inspirants dans lesquels aller chanter.
Alors Aix sera cet été, dans quelques semaines, pour un opéra complètement méconnu de Rameau, Samson, avec Pygmalion et Raphaël Pichon. Est-ce que vous avez déjà eu le temps, Léa Desandré, d'étudier la partition? Est-ce que vous savez déjà quelques éléments sur votre personnage?
J'ai discuté avec Raphaël depuis quelques mois sur le répertoire. On a choisi ensemble aussi certains airs. Et j'ai reçu la partition, il y a plein de magnifiques musiques, des extraits des plus belles pièces de Rameau. Rameau, c'est un compositeur que j'aborde depuis plusieurs années et qui laisse vraiment la place au chant. C'est très agréable de chanter sa musique, avec toujours une belle qualité de texte. Et avec Raphaël, oui, ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a cette confiance aussi qui est là, et je crois que c'est la clé.
Nouvel extrait de la générale de cette production de Médée de Charpentier, présentée en ce moment au Palais Garnier, avec donc Léa Desandré dans le rôle titre, sous la direction de William Christie à la tête de César Florissant, avec également dans la distribution Reinhold van Mechelen dans le rôle de Jason, Laurent Naouri, Emmanuel de Négri ou encore Julie Rosé. Une production à découvrir jusqu'au 11 mai, c'est donc au Palais Garnier. Léa Desandré chantera ensuite Handel et Mozart cet été à Aix-en-Provence, mais d'ici là, elle s'illustrera dans un tout autre répertoire, celui de Julie Andrews, aux côtés de Thomas Dunford et de l'ensemble Jupiter, un spectacle intitulé Chasing Rainbows, qu'ils donneront le 21 mai à l'Opéra Comique, puis du 24 au 26 mai à la Cité Bleue de Genève. C'est l'autre facette de l'univers musical de Léa Desandré qui lui est tout aussi naturelle que l'opéra.
Vous savez, ces posters que vous avez dans les chambres quand vous êtes enfant, ben voilà, moi il y avait Julie Andrews parmi d'autres. Et c'est un rêve de faire un spectacle autour de son répertoire. Et en fait, les programmes avec Jupiter et avec Thomas, c'est un petit peu mes bouffées d'oxygène entre les productions d'opéra qui sont d'autres aspects du métier qui me passionnent. Mais les concerts, on peut vraiment laisser libre cours à toute notre imagination, nos envies, réaliser nos rêves. Et avec Thomas, à chaque fois, pour un nouveau programme, on se dit qu'est-ce qui nous ferait plaisir, parce qu'on part du principe qu'en se faisant plaisir, on communiquera de la joie et le public en sortira lui aussi heureux. Et en fait, moi j'ai grandi dans une famille où le cinéma est très présent. Et Thomas est franco-new-yorkais et son papa, ils allaient à Broadway, tout ça. Donc en discutant, moi j'ai grandi avec Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur, Victor Victoria, et Thomas avec West Side Story. Donc on s'est retrouvés sur ce répertoire commun. On a envie d'explorer aussi de nouveaux horizons. On se met pas de limites, voilà. On veut se faire du bien. Et donc on a réuni une nouvelle formation de l'ensemble Jupiter avec une section jazz et la section musique ancienne. Et on a créé le spectacle à l'Opéra de Rouen au mois de décembre. Et alors c'était merveilleux de voir cette rencontre. Au début, on se cherchait un peu les uns les autres et très vite, en fait, ça a hyper bien matché. C'était bon enfant. On a la chance d'avoir de sublimes costumes d'Hubert Barrère qui viennent pimper le tout et rendre le spectacle vraiment magique avec Sophie Deinman qui fait la mise en espace. Donc on est sur un programme extrêmement joyeux. À l'Opéra de Rouen, c'était à la période des fêtes de Noël, on avait la salle qui chantait, presque qui dansait, on voyait le sourire de la petite fille au premier rang avec son grand-père qui lui était tout aussi heureux, donc il y avait vraiment quelque chose d'une joie communicative, beaucoup de plaisir, ça touche toutes les générations, et on était l'orchestre, toute l'équipe, on avait 5 ans et demi, des petites couettes, super heureux d'aller faire cette musique. Moi, je danse, je chante, je me suis mise aux claquettes de manière très furtive, mais pour faire un petit clin d'œil au Charleston aussi. Donc voilà, c'est un programme plein de joie et je recommande vivement de, si possible, venir le voir parce que ça, on en sort tous comme avec un grand soleil dans le cœur et c'est vraiment... Ouais, on se rend compte à quel point cette musique a touché toutes les générations autour de nous et encore aujourd'hui. L'autre jour, on a fait un atelier pédagogique avec Thomas et les petits de 6 ans, 7 ans connaissaient Mary Poppins.
Donc vous en avez besoin, Léa Desandré, de passer de la terrible magicienne à l'enfant de 5 ans et demi sur scène. C'est indispensable quelque part.
Oui, ça me nourrit énormément et ça fait que je cherche toujours à me renouveler, à chercher de nouvelles couleurs, à ouvrir d'autres univers, à découvrir de nouvelles choses. Je suis extrêmement curieuse dans la vie, donc j'ai envie de l'être tout autant dans la musique. Tant que, entre tout ça, vient se mêler un peu de Mozart pour faire le nettoyage et qu'on revienne à l'essentiel, moi je suis heureuse.
Et il y en aura du Mozart dans le futur, les prochaines saisons à venir?
Oui, ma règle c'est qu'il faut, pour être en bonne santé, il faut un Mozart par an. Et ma prochaine prise de rôle mozartienne, là, je viens de faire Idamante, que je vais reprendre sur plusieurs saisons. Chérubin sera toujours là. Et l'autre prise de rôle, ben, je fais Agno avec Raphaël cet été au Festival d'Aix, dans la Clémence de Titus. Et puis, bientôt, Sesto, dans la Clémence de Titus. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois.
Quelque part, mystère. Merci beaucoup, Léa Desandré.
Avec plaisir, merci, Laure.
Mon épaule. se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe, mais bien vite tu reviens.
Léa Desandré interprète de Françoise Hardy, Le premier bonheur du jour, accompagnée ici par Thomas Dunford. Elle chantera donc le répertoire de Julie Andrews au mois de mai à l'Opéra Comique et à la Cité Bleue de Genève. Quant à l'autre, Léa Desandré, la chanteuse lyrique, elle incarne Médée de Charpentier en ce moment et jusqu'au 11 mai à l'Opéra Garnier sous la direction de William Christie.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, vous nous emmenez à Francfort.
Exactement, pour suivre une Italienne qui elle-même va à Londres. Donc on voyage beaucoup. Parmi les nombreuses scènes lyriques d'Allemagne, l'Opéra de Francfort propose une saison d'une très très grande richesse. Pensez qu'entre mars, qui vient de se terminer, et mai, l'affiche présentera pas moins de 8 titres différents, dont Les Brigands d'Offenbach, Elektra de Richard Strauss, Giulio Cesare de Handel ou encore Tannhäuser de Wagner. Mais si je vous emmène aujourd'hui dans la cité économique, culturelle et commerciale suractive de cette région de la Hesse, en Allemagne, c'est pour évoquer une rareté du répertoire lyrique, l'Italiana in Londra de Cimarosa, l'Italienne à Londres. Moins connue que l'Italienne à Alger de Rossini, cet intermezzo en deux parties mérite pourtant qu'on s'y intéresse. Composé en 1778, il fut créé à Rome un an plus tard, en 1779, et c'est le mode comique qui emprunt cet opéra, qui précède de plusieurs années Le Mariage Secret. Le Mariage Secret étant sans doute l'ouvrage le plus connu de nos jours de Cimarosa. Mais Cimarosa, rappelons qu'il était napolitain, qu'il était né en 1749 et mort à Venise en 1801. Alors notre Italienne, elle séjourne donc à Londres sous une fausse identité, plusieurs messieurs lui font la cour et la belle se fait désirer. Il faut bien qu'il y ait un argument. Ajoutons les pouvoirs d'une pierre précieuse magique et une satire de l'opposition entre les travers des aristocrates et les ambitions des bourgeois et on aura tous les ingrédients de cette comédie. La musique est à la mesure du livret, aimable et alerte, avec beaucoup d'airs charmants qui se succèdent, des airs assez brefs, qui foisonnent donc, et ça a assuré le grand succès de cette Italienne, qui a donc d'abord conquis le public de Rome, puis celui de Milan, de Venise et après au-delà des frontières italiennes. Et on peut noter en particulier que Joseph Haydn, qui a été séduit par l'ouvrage, le fit donner deux fois, en 1783 puis en 1787, peut-être d'ailleurs il avait fait quelques modifications de son cru, pour distraire ses employeurs, à savoir la famille du très puissant prince Esterhazy, ce qui confirme encore le succès de cette Italienne.
Alors Emmanuel, une autre référence de taille conforte la vie de Haydn.
Exactement. À peu près à la même période, en 1784, Léopold Mozart, donc le père de Wolfgang Amadeus, écrit à son fils tout le bien qu'il pense de cette Italienne de Cimarosa qui a été donnée à Salzbourg et donc c'est une approbation qui là aussi vaut très cher, si on peut dire. L'Opéra de Francfort en a proposé en 2021 une production très pimpante, assez burlesque et elle est reprise donc en ce printemps. D'ailleurs, je signale qu'un DVD avait été édité sous le label Naxos en 2021. C'est Julia Jones, la chef anglaise mais qui a fait une grande partie de sa carrière en Allemagne, qui dirige. La mise en scène est signée d'un Américain, R.B. Schlazer, un Américain qui a d'ailleurs fait ses débuts tout récents à Francfort. Et puis pour les chanteurs, on signalera notamment le rôle-titre qui est interprété par Monika Buszkowska ou Bianca Toniocchi qui joue le rôle de sa logeuse à Londres, logeuse et quelque peu entremetteuse. Et c'est l'ouverture, les quelques notes de l'ouverture de Cimarosa, de cette Italienne, avec lesquelles on se sépare.
Musique.
L'ouverture de l'Italiana in Londra de Cimarosa, jouée ici par l'Orchestre de Chambre de Toronto et Kevin Malone, un opéra qui est à l'affiche de l'Opéra de Francfort jusqu'au 3 mai. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage.
Laure.
Et à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Louis Langrée, avec qui nous découvrirons la nouvelle saison, la prochaine saison de l'Opéra Comique.
Très bien.
Dévoilée. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Rézel.